Vous écoutez La Fabrique des Futurs, un podcast radio Agora pour tous ceux qui n'attendent pas demain pour l'inventer.
La Fabrique des Futurs, épisode 2. L'heure de l'eau.
À l'écoute de ceux qui changent.
Alors que les premiers rayons ardents de l'été se font ressentir à nouveau sur nos peaux, annonçant l'été tant attendu chaque matin à l'horizon, se réjouir totalement paraît aujourd'hui difficile, voire impossible. L'été revient cette année comme il reviendra sans doute l'année prochaine, c'est-à-dire avec son lot de joie, mais aussi de questions. Combien y aura-t-il d'incendies ? Passerons-nous l'été sans manquer d'eau ? Et jusqu'où ira la sécheresse ? L'eau est définitivement au cœur de l'été, au cœur d'une saison où elle vient particulièrement à manquer. Partout autour de nous, les preuves d'une prise de conscience apparaissent et nous rassurent. Mais les preuves du réchauffement climatique qui s'accélère et de l'eau qui s'appauvrit, elles, s'accumulent. Alors concrètement, on fait comment aujourd'hui pour mieux gérer et mieux préserver la ressource en eau ? Pour ce deuxième épisode de notre podcast « La Fabrique des Futurs », nous vous proposons un format un peu spécial puisque l'épisode du jour est enregistré ici, dans la salle principale de l'Agora de Nanterre, dans les conditions du direct et en public. Avec nous pour nous aider à mieux décrypter l'océan d'informations autour de ce sujet, j'accueille autour de la table trois invités de choix, tous experts de la question de l'eau, ou du moins d'une partie, car le sujet de la gestion de l'eau est vaste et celui de la préservation de la ressource eau est un puits sans fond. Une mer à boire qui nécessite sans doute bien quatre cerveaux pour arriver à la tarir un peu. Marine Calmet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate spécialiste des droits de la nature, cofondatrice et désormais présidente de Wild Legal, un programme annuel de transition écologique qui promeut l'étude, la pratique et le progrès du droit de l'environnement en défendant une doctrine juridique, celle des droits de la nature. Kenzie Gauthiero, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conseiller municipal délégué à la ville de Nanterre, où vous êtes notamment en charge de la gestion de l'eau. Par ailleurs, vous représentez aussi Sénéo, qui est le deuxième syndicat producteur et distributeur d'eau potable en France. Et vous êtes assis à côté de Marianne Germaine. Bonjour.
Bonjour.
Marianne, vous êtes professeure à l'Université Paris-Nanterre, également maîtresse de conférences depuis 2010, et vous êtes enseignante chercheuse en géographie, notamment au sein du laboratoire Mosaïque du CNRS. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose d'entamer cette première partie d'émission par l'écoute d'un bobino réalisé avec l'aide de Malo Blancard, de Johanna Andrayana Risson et de Lancelot Balisson.
L'accès inadéquat à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène, également appelé WASH, menace la vie de 190 millions d'enfants dans 10 pays africains.
2 billion people don't have access to a safe water supply.
Si l'eau potable qui coule si naturellement finissait par manquer.
So that in and of itself is a humanitarian and huge crisis.
Les sols seront de plus en plus souvent secs, or sans eau, pas d'agriculture possible.
0 mm, pas de pluie. Ça devient catastrophique.
Ces précipitations suffiront-elles à recharger les nappes phréatiques ?
Parce qu'en réalité, l'Européen moyen que l'on est consomme entre 5 000 et 7 000 litres d'eau par jour.
Les experts prédisent que la demande en eau pourrait augmenter de 55% d'ici 2050. En cause, la surconsommation d'eau et surtout la croissance démographique.
Car la France manque d'eau. Cette carte de l'humidité des sols vire même au rouge. Il n'y a pas eu assez de pluie cet hiver pour recharger les nappes phréatiques.
Actuellement, deux tiers des nappes phréatiques sont à un niveau inférieur à la normale, voire très bas.
Madame, monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb.
It will be an exodus of people. We'll have, you can call them environmental refugees or water refugees. But they simply can't stay if they do not have enough water supply to survive. They'll have to move or they will die.
L'un des objectifs du développement durable est justement d'éradiquer ces menaces à l'horizon 2030.
Beyond that, 3.6 billion people, nearly half the population of the world, don't have access to safe sanitation services.
Une analyse du Fonds des Nations Unies pour l'enfance indique qu'environ un tiers des enfants de ces pays n'ont pas accès au minimum d'eau potable chez eux. Parmi les pays mentionnés figurent le Bénin, le Cameroun, le Nigeria et la Somalie.
J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Je le reconnais devant vous, difficile de ne pas être déprimé après avoir écouté ce Bob. Difficile aussi de nier l'existence d'une crise de l'eau quand on a écouté toutes ces sources. Mais puisque douter est normal et que douter est humain, je vais retourner la question à nos invités à la lumière de leur expertise métier et leur poser la question à eux. Et j'entame la conversation avec vous, Marie-Anne Germaine, de l'Université Paris-Nanterre. Votre approche de l'eau, elle est plutôt autour de l'eau en tant que milieu, plutôt que de l'eau en tant que ressource. C'est-à-dire que vous étudiez plutôt l'eau en tant qu'écosystème naturel, fragile et indépendant de bien d'autres facteurs. Peut-on parler, selon vous, Marie-Anne, d'une crise de l'eau et qu'est-ce que vous avez pu apprendre ou constater dans vos travaux de recherche qui me permettrait de l'affirmer ?
Dans le cadre de mes recherches, en fait, j'appréhende effectivement plutôt l'eau sous la forme d'un milieu, c'est-à-dire pour dire les choses concrètement, on peut aborder l'eau comme une ressource d'eau potable, par exemple, mais on peut aussi l'aborder sous la forme des habitats, des cours d'eau, des plans d'eau, des zones humides qui abritent de la biodiversité. Et de ce point de vue-là, le panorama n'est pas non plus très réjouissant, puisqu'on a un certain nombre de dégradations qui sont liées aux activités humaines, l'urbanisation, l'industrialisation, etc., qui ont contribué à dégrader ces milieux. Et si on parle strictement des cours d'eau, quelques chiffres à l'échelle, alors pas exactement de l'Île-de-France, mais ce qu'on appelle le bassin Seine-Normandie, c'est-à-dire l'ensemble du bassin versant qui alimente le fleuve Seine, bien en 2019, 32% de ces cours d'eau étaient en fait en bon état, 43% étaient en état moyen, ce qui veut dire qu'une partie non négligeable était en état relativement dégradé. Et donc, quand on dit ça, on parle à la fois de leur état physico-chimique, donc ce qui est lié à la pollution, qui peut venir de différentes sources, les sources domestiques, donc notre usage de l'eau, nos rejets à la maison, des usages industriels, et puis également des pollutions diffuses qui sont liées à l'utilisation de produits phytosanitaires dans les activités agricoles. Mais dans le cadre du bon état écologique, on considère pas seulement ces paramètres physico-chimiques qu'on peut mesurer avec un certain nombre d'indicateurs, hein, par des prélèvements d'eau en particulier, donc qui vont indiquer sur, par exemple, la présence de nitrates, de phosphates, hein, qui vont dégrader la qualité du milieu et donc poser des problèmes en termes d'habitat pour abriter et de la faune et de la flore. Mais on parle aussi de la qualité physique de ces milieux, c'est-à-dire leur physionomie. Et donc, quand on a des cours d'eau qui sont canalisés, pour la navigation ou pour d'autres usages, quand on a des cours d'eau qui sont endigués pour se protéger, par exemple, des inondations, eh bien, ça va aussi avoir des répercussions sur le potentiel que ces cours d'eau vont avoir à abriter de la biodiversité, donc avec des obstacles, par exemple, pour la remontée des poissons migrateurs, pour donner un exemple très concret, ou des obstacles, des habitats qui vont être moins favorables à l'installation d'un certain nombre d'espèces dans les milieux.
Peut-être un deuxième élément assez concret qui va prouver l'existence de cette crise, c'est tout simplement l'existence du Master G de l'eau qui a été initié à Nanterre, je crois, en 2015, et qui est un master avec une approche plutôt géographique, qui s'intéresse à la ressource en eau, mais pas que, qui va traiter de toutes les questions de transition écologique. Et selon moi, et je le partage avec les auditeurs, c'est aussi la preuve d'une forme de prise de conscience de cette crise de l'eau sur un plan universitaire. Je vais peut-être poursuivre avec une anecdote, ou plutôt un fait d'information. En mars dernier, une centaine de ministres et une douzaine de chefs d'État et de gouvernement se réunissaient à New York au sujet des ressources en eau qui s'épuisent. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'exprimait dans l'avant-propos d'un rapport publié à quelques heures de la dite conférence des Nations Unies. La tonalité est assez alarmante. Je cite « une surconsommation et un surdéveloppement vampirique, une exploitation non durable des ressources en eau, la pollution et le réchauffement climatique incontrôlés sont en train d'épuiser goutte après goutte cette source de vie de l'humanité », ajoutant ensuite que l'humanité s'est engagée aveuglément sur un chemin périlleux. Kenzie Gauthiero, en votre qualité de représentant de Cénéo, est-ce que vous partagez ce constat du secrétaire de l'ONU ?
Alors oui, tout à fait. On ne peut pas nier ce qui se passe quant à l'urgence climatique qui a un impact sur la ressource en eau. Dans notre territoire Cénéo, on n'a pas encore de véritables problèmes quant à l'approvisionnement. On remarque bien évidemment qu'il y a des baisses d'étiage, il y a des baisses du niveau de l'eau de la Seine sur nos points de captage. Pas encore au point de nous empêcher de produire de l'eau potable, de l'eau notamment de qualité. Néanmoins, nous sommes très, très veillatifs là-dessus pour plusieurs raisons. La première, c'est que moins d'eau veut dire plus de pollution. Donc ça nous pose un problème puisqu'on est tenu de produire de l'eau de qualité H24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Donc nous avons, ce point d'alerte que nous devons sans cesse vérifier selon le niveau de l'eau. En plus de cela, nous avons aussi une mission de sensibilisation. Et là aussi, ça nous pousse à aller de l'avant, en fait, et à dire que oui, même si sur notre territoire, il n'y a pas de... J'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas de problème, parce que ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas le cas. Mais on arrive à gérer pour l'instant, tant que faire se peut, nos difficultés. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir plus loin. D'ici 30-40 ans, le niveau de la Seine va énormément diminuer. Donc, en plus des milieux, de l'impact qu'il y aura sur les milieux aquatiques, sur la faune et la flore, il y a aussi la capacité qu'on aura à produire cette eau dont on a toutes et tous besoin.
Si je résume, pas encore de crise totalement en Île-de-France, mais en tout cas une tension qu'on commence à ressentir. J'en profite pour parler d'un guide de l'eau qui a été publié par la ville de Nanterre il y a quelques temps et qui parle effectivement d'une pression sur la ressource en Île-de-France, notamment du fait de la concentration de l'activité humaine et de l'imperméabilisation des sols en Île-de-France qui reste assez importante. Et sur un autre plan, peut-être, j'ai envie d'aller maintenant sur le plan des militants, parce qu'il y a du militantisme qui devient de plus en plus visible dans notre société, notamment autour des questions écologiques. J'en viens à vous, Marine Calmet, vous êtes avocate de métier, mais vous avez décidé de consacrer une partie majoritaire de votre temps à Wide Legal, qui est un programme qui réunit des avocats, des juristes et des citoyens dans une lutte qui est celle de la lutte et de la défense des droits de la nature. Quels éléments, Marine Calmet, vous pouvez nous apporter pour compléter le constat d'une crise mondiale de l'eau?
Je dirais l'élément de la profusion aujourd'hui, à la fois des luttes sur le terrain, mais aussi des luttes dans les tribunaux pour défendre l'eau, parce que c'est révélateur d'en fait une crispation, voire même d'une opposition flagrante et de plus en plus violente entre les tenants d'un accès à l'eau pour tous et ceux qui privilégient leur intérêt personnel, professionnel et économique, au détriment de l'ensemble des autres, humains et non humains compris, parce que l'eau n'est pas qu'une ressource, l'eau est un milieu, l'eau est un espace de vie aussi pour énormément d'entités qui en ont besoin, et on a tendance à l'oublier parce qu'on a cette relation de captage, d'accaparement de l'eau pour nos besoins, oubliant en fait bien souvent que pour beaucoup d'autres espèces, c'est un milieu non négociable pour leur survie et que donc eux aussi sont en danger de mort du fait de la raréfaction de cette eau. Et donc on le voit, il y a une nette progression des conflits partout dans le monde autour de ces questions et notamment en France, puisqu'on a eu récemment les conflits autour des méga-bassines qui a mené à des heurts très violents avec les forces de l'ordre. On a énormément de mobilisation, notamment dans la région de montagne, sur l'accaparement de l'eau pour la production de neige artificielle, où là encore, eh bien, les citoyens s'opposent à la fois sur le terrain, mais aussi dans les tribunaux, à la construction de ce qu'on appelle des retenues collinaires, où on voudrait pomper de l'eau pour ensuite pouvoir créer cette neige artificielle et maintenir, donc de manière complètement artificielle, l'industrie du ski, alors que le réchauffement climatique est déjà bien présent et devrait nous enjoindre à changer le modèle plutôt qu'à persister. Et c'est un exemple parmi d'autres qui montre qu'en fait notre relation à l'eau aujourd'hui est en train de se polariser entre les communs, la protection commune de l'eau et l'accaparement, pour des motifs économiques. Et ces deux modèles s'affrontent évidemment parce qu'ils sont inconciliables.
Et justement, nous, en tant qu'ignorants de la question d'eau, ou en tout cas en tant que débutants sur cette question, et je l'avoue, je m'inclus là-dedans, on a eu pas mal d'informations récemment autour de cette crise de l'eau, notamment une inquiétude un peu générale autour des pluies qui ont été de plus en plus rares, notamment pendant le printemps, même si on a eu quelques épisodes orageux, on s'en souvient quand même. Est-ce que cette question des nappes phréatiques vides, est-ce que le fait qu'il y ait une inquiétude assez généralisée là-dessus peut permettre de rendre compte aussi de cette crise? Est-ce que ça s'appuie sur des éléments qui, scientifiquement, doivent rester alarmants, même si on a l'impression en Île-de-France d'avoir assez d'eau, et même si on nous soutient qu'en pleine sécheresse, en pleine canicule, à Paris, avec la Seine qui est descendue, on a quand même des niveaux de nappes phréatiques qui sont suffisants?
Oui, peut-être pour répondre à cette question, une des difficultés, en écoutant là, les extraits que vous nous avez passés au début de l'émission, on entend bien des références aux pays arides, dont on a l'habitude de savoir qu'il y a des problèmes de pénurie très fortes en eau. Ce qui est plus nouveau, c'est de se sentir nous-mêmes menacés en France ou en Île-de-France, même si, comme l'a dit Kenzie, ça reste quelque chose qui reste assez peu tangible aujourd'hui pour différentes raisons. Parce que en fait, ce qui se passe dans les nappes, on ne le voit pas au quotidien, et même ce qui se voit dans les cours d'eau, on le voit assez peu, puisqu'en fait, si vous habitez au bord de la Seine, vous habitez au bord d'un cours d'eau qui est strictement régulé et qui, en fait, par les effets des barrages en fait, qui sont là pour réguler le niveau de l'eau pour des raisons de navigation, mais aussi de protection de l'agglomération parisienne vis-à-vis du risque d'inondation, un cours d'eau dont le débit ne varie pas. C'est-à-dire qu'on n'a plus du tout d'expérience ni des périodes d'étiage en été. Alors, des périodes d'inondation, oui, quand elles sont très fortes, mais finalement, ce qu'on voit, c'est uniquement les événements extrêmes. Donc, on n'a plus du tout... cette perception-là. Et donc, il y a une question de visibilité ou d'invisibilité de ces phénomènes qui se pose, qui est quelque chose qu'on peut aussi étudier. Donc, c'est peut-être, si je peux permettre de faire un détour par un projet de recherche que mènent des collègues au sein du laboratoire donc Mosaïque à l'Université de Nanterre. On a un programme sur les territoires sentinelles qui part de l'idée de se poser la question de savoir, voilà, il y a des choses que nous, en tant qu'humains, on ne perçoit pas, dont on n'a pas conscience, mais qu'on peut documenter par des territoires qui vont se révéler précurseurs en fait et des indicateurs de menaces qui vont arriver. Donc par exemple, eh bien c'est des niveaux, des cours d'eau qui deviennent intermittents, qui deviennent à sec une partie de l'année, voire qui s'interrompent complètement, qui agissent comme des signaux. Et ces signaux, ils sont intéressants non seulement pour documenter des tournants, des seuils qui nous montreraient au combien les systèmes sont en train de basculer, peut-être vers des points de non-retour, des points de bascule, mais ils sont aussi intéressants d'un point de vue sociopolitique parce que le fait de rendre visibles ces phénomènes va nous inciter à agir et va aussi déclencher une prise de conscience et un passage aux politiques, à des changements de comportement je pense qu'on voit tous qu'on est aussi dans un contexte mouvant où ces questions de sécheresse, de pénurie en eau deviennent de plus en plus tangibles pour une partie d'entre nous suite aux étés caniculaires passés.
D'autant qu'on a entendu dans le premier Bob, dans le premier mash-up que je vous ai passé, que la population étant dans une démographie assez croissante au niveau mondial, la demande en eau, elle, devrait augmenter de 55% d'ici à 2050 du fait de la surconsommation en eau des ménages, des activités humaines, mais aussi de la croissance démographique. Des projections, du coup, qui nous amènent peut-être à finir cette première partie avec un peu d'inquiétude, mais pour poursuivre avec un peu d'optimisme, il y a une réponse qui est tangible, sensible au niveau de la société. La preuve étant qu'on est tous réunis là un vendredi soir, alors qu'il y aurait peut-être d'autres choses à faire, pour parler de ce sujet important. Je vous propose l'écoute d'un deuxième Bob. Cette fois-ci, on quitte la partie 1 de notre émission autour de la crise et on rentre dans la réponse. Écoutez.
Si vous n'aviez plus que 3 litres d'eau par jour et par personne pour vivre, que feriez-vous?
Bon, ça irait quand même, 3 litres d'eau, non?
3 litres, c'est rien.
consomme 250 litres par jour.
Ah bon? Ouais.
Pour être clair, l'eau est indispensable à l'agriculture. Elle est donc indispensable à notre souveraineté alimentaire.
Au fil des années, l'opposition à ces bassines s'est durcie. Et des milliers de personnes ont rejoint la lutte avec des actions symboliques, des pétitions, des recours juridiques et même des sabotages.
Une étude de juillet, scientifique, qui explique que c'est un projet qui est bon pour la biodiversité et qui est bon pour l'étiage. Donc je vois pas les raisons pour lesquelles je serais contre un projet légal, soutenu par les élus, et pour lesquels les scientifiques disent qu'il va dans le bon sens.
Sauf que quand on regarde et qu'on connaît un petit peu comment fonctionne l'hydrologie et finalement le fonctionnement de la ressource en eau, on voit bien que c'est pas la solution à moyen terme, c'est une fuite en avant.
Alors normalement, le sommet doit conduire à un ambitieux programme d'action pour l'eau.
Il faut mettre en place une tarification que je qualifierais de progressive et responsabilisante de l'eau.
Elle espère que les dirigeants internationaux prendront des mesures à la hauteur de la crise mondiale de l'eau.
On veut demander aux agriculteurs de prélever moins pour respecter les débits nécessaires qui doivent se maintenir dans les cours d'eau. On ne peut pas, à côté, laisser des particuliers remplir pour un simple usage, encore une fois, qui est vraiment récréatif et de confort.
Ah bon, ouais.
Ça tue du jour au lendemain une activité économique et ça met en péril des emplois et des dizaines d'entreprises qui travaillent, des entreprises artisanales et familiales, qui travaillent dans la construction de piscines.
Donc à l'échelle de chacun, éviter de gaspiller la nourriture et végétaliser son alimentation, ça reste donc un des moyens le plus efficace d'économiser l'eau.
Peut être intéressant à condition de le jauger de manière intelligente et équilibrée.
La douche, c'est 40% de notre consommation d'eau quotidienne. Et donc j'ai avec moi ce qu'il vous faut pour réaliser des économies d'eau pour la planète et puis aussi des économies pour votre portefeuille.
Un second Bob, plein de nuances. On sent bien que la réponse aujourd'hui face à cette crise de l'eau, elle est existante, elle existe, elle est même palpable. Elle se constate au niveau de l'individu, c'est vrai, mais aussi au niveau des entreprises et plus largement au niveau de la société. Marie-Anne Germaine, vous êtes enseignante à l'Université Paris-Nanterre et au quotidien, vous allez côtoyer des universitaires, des étudiants. Bref, quelque part, vous côtoyez l'avenir. Est-ce que cette prise de conscience se fait ressentir dans les couloirs de l'Université de Nanterre ?
Oui, je crois qu'effectivement, pour intervenir du niveau de première année de licence jusqu'en master à l'Université de Nanterre, je suis dans un moment, pour être tout à fait transparente, de remise en cause même de ce que je dis en fait dans les cours de première année, puisqu'en fait, on a aujourd'hui, je crois, vraiment des étudiants qui sortent donc juste du lycée, qui en fait sont bien mieux informés aujourd'hui que ceux qu'on accueillait à l'université il y a, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 ans, ce qui nous permet en fait d'aller directement beaucoup plus loin, parce qu'en fait, une grande partie d'entre eux sont déjà très sensibilisés, très au courant d'un certain nombre de questions. C'est aussi quelque chose qui est compliqué, parce qu'en fait, on sent qu'il y a aussi beaucoup d'anxiété et beaucoup d'inquiétude par rapport à ce contexte-là, ce qui fait que c'est pas forcément des cours qui sont évidents, mais je crois qu'il y a une vraie motivation, une vraie envie des jeunes de s'investir dans les politiques de transition écologique, qui sont des choses qu'on traite dans le master.
Et parmi les réponses, au-delà de l'université, il y a aussi la réponse militante qui est de plus en plus prégnante et qui permet aussi de rendre compte de cette volonté, on va dire, sociétale d'avancer sur la question de l'eau. Marine Calmet, est-ce que le militantisme écologique est une réponse efficace pour faire face au défi de l'eau? Et plus, peut-être pour parler un peu de vous, est-ce que ça peut expliquer que, alors que vous êtes de formation d'avocate, aujourd'hui vous vous consacriez davantage à Wild Legal votre métier d'avocate et au barreau?
Le rôle de l'avocat, c'est avant tout d'aider à faire et à utiliser le droit comme un outil au service d'une cause. Moi, c'est ce que je fais. Donc, je considère que je fais mine de rien le même métier sans être inscrite au barreau pour autant. Mais l'activité, je dirais, activiste, parce que je ne sais pas quel lien ou quelle différence faire entre militantisme et activisme. Moi, je préfère le terme d'activisme parce qu'il y a action dedans. D'une certaine manière, c'est plus positif. Et je pense qu'en fait, c'est juste une voie complémentaire. Parce que, évidemment, alors, et surtout, il faut s'appuyer sur les scientifiques, sur les données, faire en sorte qu'en tant que juriste, on s'appuie sur la science pour déposer des recours, pour créer des campagnes, pour structurer son plaidoyer, puis essayer de trouver des solutions, parce que S'opposer, évidemment, c'est une chose. Construire, c'en est une autre, parfois encore plus difficile selon les bases sur lesquelles on travaille. Donc, nous, notre travail avec Wild Legal, c'est vraiment d'essayer de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on met en lumière les lacunes du droit existant aujourd'hui. On le montre. Notre droit, il a ses limites, il a ses failles aujourd'hui qui ont conduit à la situation dans laquelle on est, puisqu'en fait, la grande majorité des activités qui, aujourd'hui, nous poussent à dépasser les limites, notamment les limites en matière d'usage d'eau, ces activités sont parfaitement légales. On les connaît, ce sont les activités industrielles et agricoles qui ont la plus grande part de consommation en eau. Tant que ces activités ne sont pas réinscrites dans le cadre des limites planétaires et notamment dans le cadre des capacités physiologiques, écologiques de nos écosystèmes, on ne peut pas trouver de solution. Et ça, de toute façon, si le droit n'est pas calqué sur ces capacités biologiques des écosystèmes que nous décrivent les scientifiques, on a un droit qui est en incohérence avec notre réalité physico-chimique. Et donc, facilement, on ne peut pas trouver une solution viable. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de ne pas poursuivre dans le métier d'avocat pur. C'est parce que je voulais transformer la loi pour pouvoir mieux m'en servir et que tant qu'elle était comme elle l'est aujourd'hui, je n'obtiendrai pas des victoires à hauteur de ce que j'espère pouvoir obtenir en modifiant la loi.
En tout cas, la loi, c'est un outil pour y parvenir, l'étude et l'enseignement également. Il y a une des luttes peut-être aujourd'hui qui a vraiment cristallisé ce débat autour de l'eau, c'est le débat autour des méga-bassines, avec une opposition très forte autour de ce sujet-là. On se rappelle la lutte Sainte-Soline, on se rappelle des opérations de sabotage qui ont été menées pour lutter contre ce projet de méga-bassines. Pourquoi, selon vous, et je pose la question ouvertement, ce débat-là autour des méga-bassines, qui pour autant est soutenu par une partie du monde agricole, cristallise-t-il autant la crise de l'eau ?
Tout simplement parce que c'est une question qui est prégnante. Elle montre en fait la finitude, l'aboutissement d'un système. Les méga-bassines, c'est quand même la prédation de la ressource en eau. C'est l'accaparement d'un commun. Donc, quand on dans une période que nous vivons, dont on connaît... l'importance, on voit très bien les effets du changement et du réchauffement climatique. Privatiser une ressource dont on a tant besoin pour des ambitions économiques, en réalité, c'est ça, c'est de produire dans une logique productiviste, ça pose problème. Donc, on a d'un côté des agriculteurs, certains agriculteurs, certains tenants d'un certain modèle qui arrivent à son terme, et d'autres qui se sentent un peu lésés, en fait. Donc, comme le disait Marianne, surtout chez les jeunes, on voit très bien l'engagement. Ils sont des fois plus informés que nous. Ils voient la réalité et ils se demandent mais quel monde qu'ils vont nous laisser. Donc, lorsqu'on arrive là, à ce moment... On comprend cette cristallisation et cette opposition entre ceux qui veulent un avenir meilleur, certes, mais une plus juste répartition de la ressource en eau, et ceux qui, comme je vous l'ai dit, qui sont là pour leur intérêt individuel. Donc forcément, ça cristallise. Et là, c'est pour moi à l'État, effectivement, au législateur, de remettre la mairie au centre du village et de poser la question de l'unité. C'est un commun. Comment on dialogue, comment on répartit la ressource. Et pour l'instant, honnêtement, on a plus l'impression que la puissance publique est d'un côté, plus d'un côté que de l'autre.
Pour aller dans le sens plutôt juridique, dans l'analyse juridique, ce qui est intéressant à constater, c'est qu'en fait, donc, ces méga-bassines, pour la plupart, sont donc, autorisées par les préfets. Leur construction est validée par donc, les représentants de l'État dans les territoires et quasiment systématiquement attaquée du coup par alors, soit les organisations paysannes traditionnelles comme la Confédération, soit des associations environnementales, et les associations et ses opposants gagnent. Parce qu'en fait, l'État ne respecte pas le droit, et notamment tout ce qui concerne la protection des espèces protégées ou d'autres dispositions en matière d'environnement. Donc ces méga-bassines, en plus, pour la grande majorité d'entre elles, sont parfaitement illégales. Et on a eu récemment d'autres informations. Il y a eu un rapport, même scientifique, qui a été fait dans la Vienne sur la capacité de fournir l'eau pour remplir ces bassines. Et même ça, ce rapport a été enterré parce que le préfet a considéré qu'on n'avait pas tenu compte des connaissances, enfin d'une analyse socio-économique. C'est comme si en fait on voulait que la science, si elle n'était pas validée par l'économie, ne tient pas. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on fait tout à l'envers. Si le constat scientifique ne correspond pas au modèle économique, dans ce cas-là, eh bien, on réfute le constat scientifique. Au lieu de se dire comment on crée un modèle économique qui rentre dans le constat scientifique et qui le respecte pour pouvoir être un modèle sur le long terme. Et ça, c'est affligeant, quoi, d'avoir aujourd'hui des représentants de régions qui ne prennent du coup pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Là, on comprend pourquoi aussi les jeunes s'inquiètent, franchement.
Et pour autant, c'est l'État qui soutient ce projet de méga-bassine, mais c'est aussi l'État qui est à l'origine et à l'initiative du plan d'eau qui a été présenté cette année par le président de la République Emmanuel Macron en mars 2023. Il a été dévoilé aux citoyens français à cette occasion et il a annoncé 53 mesures qui, prises ensemble, seraient supposées nous aider à réduire notre consommation d'eau d'une part, mais aussi à avancer vers la résolution de cette crise en eau. Est-ce que ce plan eau vous semble suffisant ? Est-ce que c'est une raison de se réjouir, Marie-Anne Germaine ?
Oui, quelques éléments, effectivement. Alors, on parle beaucoup d'eau en ce moment. Il y a ces 53 mesures qui insistent beaucoup sur des questions de sobriété, qui ont aussi, quelque sorte, qui insistent en fait sur une responsabilisation des individus. Alors certes, on peut faire plein de choses et c'est toujours très bien de faire plein de choses à chacun à notre échelle, mais d'un autre côté, en fait, pour reprendre ce qui a été dit précédemment, la difficulté, c'est quand ces incitations à des éco-gestes, à des petits gestes, ben, sont en contradiction avec d'autres orientations économiques en particulier. Alors attention à ne pas mettre tous les agriculteurs ou tous les industriels dans la même boîte, hein, et pas universaliser, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, mais on voit bien qu'il y a différents modèles qui coexistent et certains qui sont plus privilégiés que d'autres. Donc tant qu'on ne remet pas ça en cause, bien ce plan il reste très insuffisant. Il met en avant des solutions techniques donc qui peuvent être intéressantes et qui peuvent nous aider à aller vers plus de sobriété, mais qui ne vont pas résoudre tout. C'est l'exemple de la production de neige de culture. À un moment donné, on peut imaginer toutes les solutions techniques que l'on veut. On ne va pas résoudre le fait qu'il neige moins ou que les températures sont plus fortes au printemps et au début de l'hiver et que du coup, ben, il va falloir abandonner l'idée au moins d'allonger la saison de ski, voire complètement l'abandonner et se reconvertir. Donc c'est plutôt la solution, de mon point de vue, elle est vraiment dans ce qu'on appelle la transition écologique, des solutions d'adaptation, de reconversion, sur lesquelles on doit réfléchir plutôt que simplement ces solutions techniques.
Et donc vous parlez justement de mesures qui peuvent être prises au niveau du gouvernement, qui font partie de ce plan d'eau, mais aussi des bonnes pratiques qui font plutôt partie des mesures qui sont à la portée des individus. On entend beaucoup parler de ces bonnes pratiques, la réduction du temps sous la douche, éviter les bains, et j'en passe. Il y en a pas mal qu'on a adopté, ou en tout cas qu'on a eu à nos oreilles assez largement. Je me retourne vers vous, Kenzie Gauthiereau, qui, je le rappelle, est responsable à la ville de Nanterre du deuxième syndicat producteur d'eau potable en France, Cénéo. Est-ce que Cénéo met en place des choses pour que les individus avancent dans cette voie, d'une part, et par ailleurs, qu'est-ce que vous, en tant que syndicat producteur d'eau, vous faites pour avancer vers une meilleure gestion de la ressource eau ?
Alors, oui, bien sûr, Cénéo met plusieurs dispositifs justement pour sensibiliser dans un premier temps. Nous avons le processus des petits citoyens de l'eau qui est à destination des écoles primaires, qui va sensibiliser dès le plus jeune âge en fait les citoyennes et les citoyens sur cet enjeu eau. En plus de cela, nous avons un jardin pédagogique qui est au Mont-Valérien, au siège de Cénéo, avec énormément de communication, d'ateliers qu'on met en place pour sensibiliser les petits et les grands sur les enjeux eau. Donc, premièrement, la prise de conscience et également comment faire pour justement réduire sa consommation d'eau. Après, qu'est-ce que Cénéo met en place ? Nous avons des dispositifs un peu plus techniques, donc les écouteurs acoustiques que nous mettons sur notre réseau pour entendre en fait les fuites d'eau. C'est J'ai envie de dire, c'est bénin, c'est simple, c'est logique, mais tout le monde ne le fait pas. Et ça permet de réduire les dépenses d'eau, parce que c'est de l'eau qu'on va capter, qu'on va potabiliser et qu'on va envoyer dans les canalisations et qui sont perdues après. Donc là aussi, c'est quelque chose à gérer, surtout quand on a des canalisations qui sont vieillissantes. Elles ont dans les 80, 90 ans, donc des fois elles lâchent. Donc c'est important d'investir sur ce réseau afin d'augmenter sa performance. Nous avons des dispositifs éco-sociaux, éco-économiques, je vais dire, tels que la plomberie solidaire, qui nous permet en fait là d'agir chez l'usager en lui montrant comment déjà voir qu'il a des fuites. Et comment répondre à ces fuites? Et j'en passe, il y a les éco-mousseurs aussi, les petits dispositifs qu'on peut mettre sur nos robinets, justement pour diminuer la consommation d'eau. Parce que lorsqu'on ouvre le robinet comme ça, il y a énormément d'oxygène. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. En fait, on en dépense énormément. Donc, ça permet de réduire en fait cette consommation d'eau. Et puis, il y a toute la sensibilisation. On a mis en place des fresques de l'eau. Il y en aura une bientôt ici à l'Agora. Donc voilà, c'est tout ce qu'on fait au niveau à destination des publics. Au-delà de cela, Sénéo ambitionne avec un autre syndicat de l'Ouest parisien, donc Aquavest, d'acheter en fait tout simplement des usines de Suez dans l'Ouest parisien, tout simplement pour garantir une eau de bonne qualité à ces usagers, ce qui nous permet de moins dépenser, ou plutôt d'investir. Donc là, on dépense beaucoup pour avoir une eau de qualité pour l'avenir.
Et on avance souvent le chiffre de 30% de l'eau qui serait en perte sur le réseau français. Est-ce que Sénéo est en mesure de donner un ordre de grandeur, on va dire, à ces fuites? Est-ce que ça représente davantage? Est-ce que c'est moins que la moyenne? Est-ce que ces capteurs acoustiques permettent de mesurer un peu efficacement cette déperdition d'eau?
Oui, parce qu'on est à un rendement de 92%. Donc on fait le calcul, on est un petit peu en dessous de la moyenne, mais on ira encore plus loin parce qu'on est en train de rénover justement nos canalisations. On investit là-dessus. On a 1000 km de canalisation à peu près. On en renouvelle 7 par an. Donc c'est un travail énorme qu'on fait, mais justement dans cette optique de réduction des fuites pour le bien de tous, en fait. C'est vraiment un engagement important.
Je vous propose une petite escapade aquatique dans un univers musical que j'adore, teinté de poésie mais aussi d'optimisme. Juste le temps pour nous de penser à l'été, à la mer, avant de n'entamer la dernière partie de l'émission consacrée à la gestion de la ressource en eau, toujours, mais cette fois-ci, demain.
Rendez-vous dans le paradis perdu, s'aimer sans jamais se perdre.
Les jolies choses, un titre du duo français Polo et Pan. Et comme ça, sans trêve, je lance la dernière partie de notre émission La Revanche, consacrée à la gestion et à la préservation de l'eau. Mais cette fois-ci, on s'intéressera à demain. Est-ce que demain, on saura mieux gérer la ressource eau ?
Faire un avis objectif.
Qu'une municipalité a annoncé qu'une rivière, la rivière MacPy, aurait désormais le statut de personnalité juridique morale, au même titre finalement qu'une association ou une entreprise par exemple.
C'est quoi ce statut juridique qui apparaît autour de l'eau ? Voilà, vous êtes chez vous, vous avez un terrain et il y a de l'eau qui jaillit dans un coin. L'eau, elle appartient à qui ? Elle vous appartient à vous ?
Ce qu'il faut maintenant, c'est vraiment un débat public éclairé, c'est-à-dire avec des études et des contre-expertises qui permettront de balancer les arguments en la faveur ou la défaveur de ces infrastructures.
Let me close with this. Throughout our history, we're the only nation in the world that has come out of every crisis we've entered stronger than we went into it. We're doing it again here in the climate crisis. When I think of climate, I think of jobs. When I think of climate, I think of innovation. When I think of jobs, climate, I think of turning peril into progress. That's why I'm so optimistic about the future, I really am.
Aujourd'hui, la grande majorité des nouvelles stations de traitement d'eau dans le monde utilisent cette technologie de filtration membranaire. Et la moitié d'entre elles utilisent du PVDF.
Pour une même recette de teinture, une machine à rapport de main court permet d'économiser 40%.
Une star a fait parler d'elle il y a quelques années en mettant en place un système de filtration d'eau dans la ville de Flint aux États-Unis. Plusieurs pays d'Amérique latine et d'Afrique se sont lancés le défi de restaurer plus de 300 000 km de rivières d'ici à 2030.
All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry. Okay.
D'ailleurs, en Afrique du Sud, par exemple, un ingénieur qu'on voit à l'écran, cet ingénieur-là, a développé un système innovant pour rendre potable l'eau acide tirée de l'exploitation minière.
Nothing beyond our capacity if we work together. And that's what all of you are doing here have been doing. We're going to continue to do.
Pas mal d'extraits à nouveau dans ce Bob, avec à la fois des réponses plutôt optimistes, pas mal aussi d'avancées technologiques, parfois aussi un peu peut-être de climato-scepticisme, je ne vous dis pas de qui je parle, mais en tout cas, ce qu'on peut peut-être dire dans cette dernière partie de l'émission, qui je vous le rappelle est consacrée à la gestion de l'eau de demain, c'est qu'il y a du changement, notamment au Québec, sur la côte nord, où une rivière dénommée MacPy a été déclarée personnalité juridique par le Conseil des Innus. C'était en 2021 et c'était le premier élément naturel à obtenir le statut de personnalité juridique au Canada. Marine Calmet, est-ce que c'est ce genre d'information que je dois vous donner pour que vous souriez ?
Ah oui, oui. En fait, Pour revenir à la question de la personnalité juridique, on a entendu quelques extraits, c'était bien mis bout à bout, je trouve. Donc l'idée est de reconnaître la personnalité juridique et les droits fondamentaux à des écosystèmes, pas que des rivières, mais des forêts, des montagnes, etc. Et assez ancienne, ça remonte aux années 70, avec un penseur qui s'appelle Christopher Stone, qui a écrit pour la première fois cette idée sur le papier dans un article universitaire en tant que juriste. Et cette idée a fait son bout de chemin avec l'Équateur en 2008, qui est le premier pays à avoir inscrit les droits de la nature, de la Pachamama, de la terre-mère, dans sa constitution, et qui a ensuite essaimé, parce qu'en fait, énormément de territoires, et notamment autour des questions de l'eau, se sont saisis de cette idée pour dire, voilà, moi, ce projet de mine, je n'en veux pas. Moi, c'est nouveau barrage hydroélectrique qui va détruire la rivière, je n'en veux pas, etc. Et en fait, c'était une manière alors d'utiliser ce droit de la nature comme finalement un droit à la fois de déconstruction du modèle colonial, puisque ça a beaucoup évidemment été utilisé dans les territoires colonisés ou dans les territoires dans lesquels le modèle occidental est venu par le biais d'entreprises, de multinationales s'implanter sur des territoires qui, gérés par des peuples autochtones, protégés par les habitants, n'acceptent plus cette prédation, n'acceptent plus cette destruction, et brandissent finalement les droits de la nature comme un contre-droit, un droit qui viendrait légitimer leur forme de résistance parce que justement, eux ne se voient pas comme des terroristes ou éco-terroristes, comme on entend aujourd'hui, malheureusement, souvent qualifier les associations qui veulent défendre l'environnement, mais au contraire, comme les défenseurs du vivant, comme les gardiens de l'eau. Et donc, par exemple, aux États-Unis, vous en avez certainement entendu parler, il y avait les water keepers, notamment les femmes très investies contre les pipelines qui traversent les réserves autochtones et un peu partout dans le monde. Ces droits de la nature servent en fait à inverser le rapport de force entre ceux qui pensent que la nature leur appartient et ceux qui sont convaincus d'appartenir au vivant. Et ça, c'est un élément très important parce qu'en fait, notre modèle occidental, il a été construit sur l'idée que le monde appartient aux êtres humains, que nous pouvons nous servir dans les ressources naturelles à outrance et comme nous le souhaitons. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce modèle est en train de s'effondrer sous nos pieds parce que là où on pensait être au sommet de la pyramide du vivant, on se rend compte qu'on est entièrement dépendant de l'ensemble des espèces qui nous entourent et que cette ornière dans laquelle on est tombé, elle doit être corrigée par le biais d'un droit nouveau parce que le droit, c'est ce qui fait que justement, on ne sombre pas dans la guerre, on ne sombre pas dans le chaos, on se met d'accord sur des fondements juridiques qui créent une société nouvelle. Et là où les peuples autochtones, les sociétés traditionnelles, par un rapport à leur site sacré, par un rapport à l'eau, à la terre, complètement différent d'une autre, n'ont jamais eu besoin d'écrire ça, nous, dans nos sociétés occidentales, on avons besoin de drastiquement changer le rapport de force entre les humains et la nature. Et c'est pour ça que ce mouvement sur les droits des rivières et des fleuves, il est en train de prendre partout dans le monde. Et récemment en Europe, puisque l'Espagne est le premier territoire à avoir reconnu des droits à un écosystème aquatique, c'est la Mar Menor, une lagune qui était justement extrêmement impactée par les activités agricoles et l'urbanisation, qui a été reconnue le 30 septembre dernier comme un sujet de droit à part entière par le Congrès espagnol avec l'aval du gouvernement. Et donc c'est un sujet qui est évidemment éminemment politique et en France qui est en train de progresser très vite grâce aussi aux efforts des associations et notamment le nôtre. On a 10 sites pilotes en France où on mène des expérimentations pour les droits notamment des rivières et des fleuves et où on accompagne des collectivités, des syndicats de gestion des eaux, des réserves, des parcs naturels pour qu'ils utilisent les droits de la nature comme un outil concret face au réchauffement climatique, face à leur nécessité vraiment cruciale de changer de modèle et donc de changer les outils juridiques dont ils disposent.
Et justement, Marine Calmet, vous parlez pas mal dans ce dernier propos de l'interdépendance des milieux, de cette caractéristique d'écosystème qui est celle de notre planète, on va dire, au niveau de tous les milieux. Je me retourne vers vous, Marie-Anne Germaine. Est-ce que ces questions on va dire, d'appartenance juridique des biens, ou en tout cas des choses que l'on peut trouver dans notre nature, est-ce que ce sont des questions sur lesquelles les universitaires aujourd'hui écrivent? Est-ce que vous accompagnez aussi le changement juridique sur un plan universitaire? Et est-ce que le Master GG de l'eau, par exemple, va s'intéresser à la question de la personnalité juridique de l'eau, mais pas que, aussi des arbres, des végétaux, des forêts, des espaces?
Oui, alors je dirais qu'on s'y intéresse. On s'y intéresse peut-être de manière un petit peu décalée parce que le Master G de l'eau, c'est un master de géographie et non pas de droit. Mais c'est des choses qui nous interpellent et sur lesquelles on réfléchit puisqu'en fait, un des éléments centraux de ce master, c'est de réfléchir vraiment aux enjeux de gouvernance. Donc, c'est-à-dire comment collectivement on établit des règles pour gérer en l'occurrence l'eau en tant que bien commun. Moi, je dirais que je ne suis pas forcément totalement convaincue qu'en Europe et en France, doter les cours d'eau d'une personnalité juridique résolve forcément tous nos problèmes, puisqu'en fait, on voit bien, et vous l'avez dit précédemment, sur le cas des mégabassines, on voit bien qu'en fait, les choses existent en fait, dans le droit, et la problématique, c'est le respect du droit, et on voit qu'on a des préfets qui prennent des décisions qui sont parfois contraires. Donc, je ne sais pas si ajouter une couche supplémentaire va forcément résoudre nos problèmes. En revanche, d'un point de vue symbolique, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant puisqu'en fait, ça, ça révèle aussi la nécessité de se poser des questions sur nos rapports ontologiques, hein, sur la manière dont on se positionne par rapport au vivant, par rapport aux autres qu'humains. Et ça, c'est des choses effectivement sur lesquelles on amène les étudiants à réfléchir, à la fois d'un point de vue théorique, en les sensibilisant à un certain nombre de travaux, mais aussi d'un point de vue très pratique, en les engageant chaque année dans des projets collectifs et individuels sur des problématiques qui peuvent être la restauration des cours d'eau urbains ou d'autres thématiques qui toujours mobilisent la question de l'eau et avec cette sensibilité très forte à la question des jeux d'acteurs, c'est-à-dire comment, puisqu'en fait derrière on voit bien que les enjeux ils sont éminemment politiques, c'est-à-dire comment on arrive à se mettre d'accord pour partager nos attentes, nos besoins et définir un programme de gestion des milieux et de la ressource pour un temps donné.
Et si la réponse n'est pas uniquement sur le plan et le volet juridique, alors où est-ce qu'elle se situe selon vous trois? Où est-ce qu'il faut aller chercher la réponse? Dans l'enseignement, ailleurs?
Alors il y a le côté politique, tout simplement. Alors pour commencer, en tant qu'ancien du Master G de l'eau, effectivement, le Master s'y intéresse depuis pas mal d'années. On a un étudiant qui a travaillé là-dessus. Il a été en Nouvelle-Zélande. C'était mon camarade, ça l'est toujours d'ailleurs, lorsqu'il j'y étais au Master G de l'eau il y a 5 ans. Donc c'est des choses sur lesquelles le Master travaille et les étudiants sont totalement aptes à le faire. Il y a des étudiants qui travaillent aussi sur la restauration écologique des milieux aquatiques. Je l'ai fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'important et ce Master apporte énormément sur la prise en compte de l'eau en fait dans l'espace urbain notamment. Donc voilà, ça c'est, il fallait que je le dise, c'était important. Ensuite, sur le plan politique, oui, il faut que les politiques se mettent d'accord et qu'ils aillent plus loin en fait, parce qu'effectivement tout est déjà fait, il y a déjà les législations, mais les choses changent énormément, les connaissances change énormément, la température même change énormément. Donc il y a des ajustements à faire, il y a des innovations qui arrivent et qui n'étaient pas prises en compte dans le droit parce qu'elles n'existaient pas tout simplement. Je pense à l'hyperfiltration qui est utilisée dans les milieux arides et qui permet de filtrer l'eau grise afin d'en tirer une eau totalement potable en fait. Après ça pose des questions de retour au milieu. Qu'est-ce qu'on redonne au milieu aquatique lorsqu'on utilise l'eau, si ça fonctionne en cycle fermé? Donc là aussi, il y a des questions juridiques qu'il faut prendre en compte. En France, pour l'instant, ce n'est pas possible parce que la législation européenne l'empêche. Et c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à travailler avec une eurodéputée qui s'appelle Caroline Rose, d'ailleurs. Donc là, il y a des choses à faire sur ce point. Au niveau local, nous, à Sénéo, comme je l'ai dit, on ambitionne, on réfléchit avec un autre syndicat de l'Ouest parisien à racheter des usines de production de Suez. C'est pas juste pour mettre la main sur ces usines, c'est parce qu'il y a un projet derrière. Ces usines sont sur des champs captants et entourées de zones agricoles qui sont protégées. Donc c'est intéressant pour nous de travailler avec eux, ou même de les racheter, comme si on a la main là-dessus, justement pour garantir cette production d'eau de qualité, avec le moins de polluants possible, et également derrière d'avoir un projet de PAT, en fait, de plan d'alimentation, donc de donner des débouchés à nos collectivités, à nos collèges, lycées, EHPAD, justement pour améliorer leur alimentation. Donc c'est toutes ces actions que le politique peut faire tant au niveau législatif qu'au niveau de son action politique pour justement à la fois sensibiliser et aller plus loin. On ne peut plus attendre en fait. Maintenant, il faut y aller. Il y a les jeunes qui nous poussent. On est face à une réalité. On ne peut plus se voiler la face. Donc à nous d'y aller. Allons-y. Il y a des moyens d'innover. Même quand la loi n'est pas là, on peut prendre de l'avant dessus parce que rien n'empêche de protéger les terres agricoles qui sont sur des champs captants. Rien ne nous empêche d'avoir une politique ambitieuse, une action politique ambitieuse, justement en soutenant XY associations, masters et autres projets qui viennent préserver la ressource et qui viennent faire de la sensibilisation. Donc voilà, c'est sur ces deux volets, législatif et action politique, que nous pouvons agir et que nous agissons. À Sénéo et moi, à titre individuel également, comme vous l'avez compris.
Si je résume, il faut qu'il y ait une réponse qui soit peut-être coordonnée, qui permette de conjuguer à la fois le plan juridique, le plan universitaire, le plan aussi des collectivités, mais plus largement de l'État, et puis même le plan des entreprises aussi, qu'il va falloir aussi associer à cette lutte. Marine Calmet, peut-être un dernier mot sur l'aspect coordonné de la lutte, avant de finir cette heure de l'eau.
On a parlé juridique, politique, scientifique. Moi, je pense qu'il y a aussi fondamentalement un aspect culturel dans tout ça. Je travaille beaucoup avec des artistes autour de la question de l'eau parce qu'on parle beaucoup de changer les imaginaires. Ça va de pair avec changer la relation à l'eau. Et donc, avec un artiste qui s'appelle Yann Tomaszewski, on a monté une campagne autour de, justement d'un collectif de gardiens et de gardiennes de la Seine, autour de la personnalité de Sequana, la déesse historique de la Seine, pour justement ranimer à la fois un héritage historique, rendre tout cela poétique, ajouter de l'art, faire en sorte qu'il y ait des mobilisations citoyennes, que les gens se réapproprient leur histoire et leur patrimoine culturel, et faire en sorte que cette vision, cette nouvelle vision qu'on veut engager, cette nouvelle relation qu'on veut construire avec la nature, elle repose sur des bases qui soient aussi belles, joyeuses, entraînantes, et pas simplement juridiques, parce que finalement, quel monde tyrannique ce serait si on construisait tout sur quelque chose d'aussi aride que le droit. Donc, moi, j'aime bien faire en sorte que, justement, tout ça ait un lien aussi qui soit de l'ordre du plus poétique et du plus artistique. Et le droit étant une création humaine, eh bien, il faut qu'il soit inspiré par la science et par l'art pour qu'il soit aussi au reflet d'une société qui s'épanouit, qui grandit ensemble. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est un vrai projet politique. Voilà.
C'est noté.
Ça y est, l'heure de l'eau s'est déjà écoulée, emportant, je l'espère pour vous, avec elle, certaines de nos questions, mais aussi certains de nos doutes. Définitivement, la question eau est une question épineuse, fragile, à l'image de cette ressource en eau, tellement essentielle qu'elle a donné son surnom à notre planète, la planète bleue. Je remercie nos invités du jour, Marie-Anne Germaine, de l'Université Paris-Nanterre, Marine Calmet, du collectif Wide Legal, Kenzie Gauthierou à la ville de Nanterre, représentant de Sénéo, pour leur éclairage, leur bonne raison de rester optimiste. Si la question de la ressource en eau reste entière, l'épreuve d'une prise de conscience existe et nous laisse imaginer que demain, l'eau sera mieux gérée et mieux préservée grâce à l'effort de tous, mais aussi de chacun. Le monde bouge, emportant avec lui les pays, les villes, les citoyens vers des modèles plus résilients, plus respectueux de l'écologie. Il n'y a qu'à voir Nanterre, il n'y a qu'à voir Paris, il n'y a qu'à voir plus loin, il n'y a qu'à voir demain.